Voilà, on arrive donc avec cette paracha, on va nous plonger aujourd'hui dans le troisième livre de la Torah, qui se nomme donc Vayikra, le Lévitique, traduit comme ça en français. La racine du mot Vayikra, c'est karov, qui signifie appeler, du verbe appeler. Alors ce n'est certes pas notre première immersion dans ce livre un peu hermétique à la plupart des lecteurs de la Bible. Alors, je sais bien que le livre du Lévitique est de loin celui que le lecteur cursif de la Bible...
Quel chapitre?
Je vais y arriver. Pour l'instant, on est toujours dans Vayikra. Et donc, en général, le livre de Vayikra n'est pas celui qu'on apprécie le plus, et souvent, peut-être même par sa complexité, eh bien, pour le lecteur cursif de la Bible, eh bien, c'est le livre qu'on appréhende le plus. Et comment donc, quelque part, se plonger dans cette multitude de lois rituelles relatives aux sacrifices offerts à Dieu, sans parler de toutes les lois qui interviendront dans les parachotes suivantes, toujours dans le livre de Vayikra, sur la purification, et ce, dans toutes sortes de circonstances différentes. Si encore ces lois avaient toujours cours aujourd'hui, sans doute y apporterions-nous toute notre attention. Mais il se trouve que les sacrifices ont cessé depuis près de 2000 ans, depuis la destruction du temple par les armées romaines. Alors je peux comprendre que toutes ces lois paraissent, pour le lecteur moyen des Écritures, en fait très éloignées de son quotidien. Alors il est intéressant de noter cependant que le Rambam, Maïmonide, vous savez, ce grand penseur et commentateur de la Bible du Moyen-Âge, qui a vécu au XIIe siècle, eh bien, cet homme affirmait une chose vraiment des plus étonnantes. Il disait « Depuis la destruction du temple, il est des commandements qui n'ont pour action que le support du verbe, c'est-à-dire les sacrifices. » Et le Rambam, donc Maïmonide, qui a vécu entre 1135 et 1204, nous dit dans son ouvrage intitulé « Guide des égarés » que dans les temps futurs, les sacrifices n'auront plus cours. Et cependant, nous continuerons à les étudier comme si la lecture révélait toute la sainteté de ce précepte. Nous allons donc, en quelque sorte, suivre le conseil de ce sage, et qu'il a ainsi énoncé, et étudier ces préceptes qui peuvent nous paraître un peu désuets, qui n'ont plus cours depuis déjà presque 2000 ans. Et cependant, ces textes nous parlent du Messie, plus qu'on pourrait encore l'imaginer. Alors, à ce stade de notre étude, un bref rappel historique s'impose. Quelqu'un peut aller ouvrir, il faut appuyer sur 0 étoile.
Il va être le petit couple. Toujours les mêmes.
Voilà. Alors, au cours de l'histoire qui précède la construction du tabernacle et la promulgation des lois sur les sacrifices, Dieu communiquait généralement aux hommes de manière individuelle et personnelle. En dehors du contexte du jardin d'Éden et des premiers patriarches, avant Noé, Dieu s'adressait directement à des hommes de manière intelligible. Et la notion de sacrifice, pour rendre Dieu propice, hein, ce qui est d'ailleurs le sens du mot propitiatoire ou propitiation, qui est un ancien mot mais qui signifie cela, se rapprocher de Dieu, qui permet de se rapprocher de Dieu, eh bien, cette notion de se rapprocher de Dieu par cette propitiation, par le sacrifice, était déjà bien présente. Peut-être était-ce en réalité une allusion au tout premier sacrifice que Dieu a offert lui-même pour pouvoir revêtir de peau le premier couple humain. Rappelez-vous, ici, dans Genèse, chapitre 3. Abraham et bien d'autres ont offert des sacrifices sanglants à Dieu. Les sacrifices étaient d'ailleurs présents dans d'autres cultes que le culte du Dieu d'Israël, parmi les cultes païens. C'est donc que le sacrifice sanglant tient une place centrale dans le rapport à Dieu. Les Israélites sont restés 400 ans en Égypte. Ils y ont laissé des traces, mais ils ont aussi pris à leur compte un bon nombre d'éléments culturels et cultuels de l'Égypte païenne. Toujours est-il que le peuple va recevoir à présent de Dieu des instructions précises afin de s'écarter de tout ce que le paganisme égyptien leur avait appris en matière de sacrifice. Nous vivons aujourd'hui dans une société où, d'une certaine façon, la notion même de sacrifice n'est plus du goût du jour. En période de crise, le sacrifice, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, n'est plus un concept admissible. Et si sacrifice il y a, il l'est sous la contrainte économique, familiale, pour ne pas dire crûment, parfois même dans l'action terroriste. Il est de moins en moins accepté que le sang versé par un animal ou même par qui que ce soit puisse servir de rançon pour le pardon des péchés. D'où la difficulté peut-être d'aborder sereinement ce livre de Vayikra, donc du Lévitique. S'il fallait retenir une seule leçon des premiers chapitres du Lévitique, ce serait sans doute de lier la miséricorde de Dieu à la justice divine. Pas de pardon sans effusion de sang. C'est du reste ce que rappelle par ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux, lorsqu'il affirme dans Hébreux 9, verset 22, « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Or, l'abrogation des sacrifices, en même temps que la destruction du temple et de tous ses rituels, ce depuis déjà presque 2000 ans, incline à penser que cette démarche avait vocation à demeurer que pour un temps limité, jusqu'à un temps de réforme, comme l'évoque non seulement le Rambam, que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi les prophètes, et notamment Jérémie. Les prophètes évoquent souvent l'avènement du Messie comme le terme de cette économie lévitique. Le Lévitique est donc, à mon sens, une sorte d'approche pédagogique de Dieu pour conduire et préparer son peuple à comprendre, à assimiler et même à accepter le sacrifice divin du Messie qui le réconcilie avec le Père. Et s'il y a eu un temps pour découvrir, apprendre, comprendre et révéler le plan divin de salut, l'heure est aussi venue, à un moment fixé par le Père, de passer à la réalité du pardon dans le don de Yeshua, le Messie, offrant lui-même sa vie en sacrifice. Les commentateurs juifs l'avaient bien compris. Le Rambam a lui-même discerné que l'alliance lévitique ne serait pas éternelle. Ce qui était voilé devait être dévoilé, mais aussi pleinement réalisé. Il est donc fondamental d'étudier ce qui peut nous apparaître comme désuet et futile et qui pourtant est incontournable pour comprendre le sens de la nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie. Les sacrifices d'animaux ne constituent pas, ou ne constituent donc pas, en soi une finalité, mais un révélateur du Messie souffrant, donnant sa vie, au même titre que l'Akéda d'Isaac, par exemple, Genèse 22, et bien d'autres événements racontés dans la Torah, levant à chaque fois un coin du voile. Dans la première paracha de Vayikra, donc Vayikra, la première paracha s'appelle aussi Vayikra, donc c'est Lévitique 1 à 6. Les korbanot, c'est le pluriel de korban, korban, c'est une offrande, c'est un sacrifice la plupart du temps. Offrande offerte sur l'autel. Eh bien, les korbanot étaient présentés en relation avec celui qui offre l'offrande. L'offrant, donc. Donc, première paracha de Vayikra, qui s'appelle aussi Vayikra, c'était la présentation des korbanot en relation avec celui qui offre. Dans la paracha Tsav, qui est donc la paracha que nous allons aborder aujourd'hui et qui nous occupe maintenant, ces mêmes korbanot sont abordés, mais sous l'angle des sacrificateurs, cette fois, et de leur service. Et on va voir que c'est assez différent. C'est comme si vous parliez de celui qui produit quelque chose, de celui qui consomme quelque chose. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même point de vue. Donc on va voir les choses de deux façons différentes. Mais au-delà du sang versé, il nous faut rappeler qu'il y a aussi le corps de l'animal qui est en partie ou totalement consumé dans le feu sur l'autel. On parle souvent du sang versé, et c'est important, c'est sûr, mais en réalité, il nous faut aussi considérer l'animal en tant que tel, son corps qui est brûlé sur l'autel. Alors nous examinerons plus précisément d'abord ce qu'est un corban, le sens de l'autel unique, parce que les sacrifices n'étaient pas faits n'importe où, ils n'étaient faits qu'à un seul endroit, sur l'autel devant la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Le sens de l'autel unique ici tient une place centrale dans le rapport à Dieu. Et puis enfin, bien sûr, l'importance du sang versé dans le processus de rapprochement de l'homme avec son Créateur. Ceci étant, voyons à présent notre texte. Donc, la paracha commence en Lévitique 6, chapitre 6, verset 1. On ne va pas lire la totalité de cette paracha, mais en grande partie quand même. Lévitique 6, verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. » L'Holocauste signifie un sacrifice entièrement consumé, normalement, sur l'autel. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. » Ah, on est précis hein, dans notre texte, et ça peut être important. Ces deux premiers versets mettent en perspective les corbanotes, c'est-à-dire les offrandes, sous l'angle du travail des sacrificateurs. Pour celui qui offre, ce n'est pas sa préoccupation de savoir comment il fallait faire. Ça, c'est le travail des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, aujourd'hui, là, à ce moment-là, on leur donne des instructions particulières par rapport à leur travail, leur service. En effet, l'Israélite qui vient avec son offrande ne s'occupe de rien d'autre que de vider sa conscience, en quelque sorte, au moment du sacrifice. Puis il confie la suite des opérations aux sacrificateurs qui, selon les circonstances, vont préparer l'animal pour être dépecé, partagé et brûlé sur l'autel. Tout un travail. L'Israélite ne s'occupe pas de toutes ces tâches. Assez complexe, il faut en convenir, parfois. Une partie de l'offrande sera aussi le plus souvent conservée pour la consommation personnelle des sacrificateurs, d'autant plus qu'ils n'avaient pas d'autres revenus que finalement les offrandes apportées par les Israélites. Dans toute cette mise en place des règles relatives au sacrifice, les sacrificateurs se doivent d'agir avec zèle et probité. Ils sont conscients de leur responsabilité de rendre proche, ce que signifie la propitiation, hein, de rendre proches les Israélites devant le Seigneur. D'ailleurs, en hébreu, korban, dont la racine est la même que pour vaïkra, hein, karov, signifie appeler ou rendre proche, ou encore être proche. Donc le korban est là pour permettre de s'approcher de Dieu ou de se rapprocher de Dieu. Le sacrifice Corban a donc pour vocation de nous rapprocher de Dieu. Or, le peuple ne pouvait envisager cette proximité, cette intimité avec Dieu, sans un intermédiaire. Moïse le sera d'ailleurs pour un temps, mais en réalité, c'est le sacrifice, quel qu'il soit, qui avait pour seule vocation de rapprocher l'homme de son Créateur. Et la première des dispositions relatives au sacrifice est celle du lieu. Elle nous est déjà mentionnée donc en Lévitique 1, au tout début du livre de Vaïkra, au chapitre 1, versets 1 à 4. « L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre et lui parla et dit, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous, fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail. Si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc le sacrifice doit être présenté devant l'Éternel et sur son unique autel, nulle part ailleurs. C'est le sacrificateur seul qui peut accomplir l'offrande sur l'autel. Le chemin qui conduit l'Israélite à se rapprocher de son Dieu passe par un lieu unique et un intermédiaire qui fait office de médiateur entre l'homme et son créateur. Alors, pour les lecteurs que nous sommes, il est possible de s'interroger, de poser la question suivante, ou les questions suivantes. Pourquoi l'autel de l'Éternel et non pas n'importe quel autre lieu? Pourquoi ce travail doit être fait par des sacrificateurs désignés? Et enfin, pourquoi le sang versé et l'holocauste consumé sur l'autel? En fait, la vraie question, c'est ne pouvait-on pas faire autrement? Et pour les rabbanim, mais aussi peut-être pour la plupart des autres cultes païens, l'homme a été séparé de son Dieu lors de la chute du premier couple humain. Je vous apprends rien. L'homme, chassé du jardin, cherche depuis lors à retrouver cette communion avec son Créateur. Et pour les maîtres du judaïsme, l'homme se compose d'un corps physique doté d'une nefesh, c'est-à-dire son principe vital, qui est donc la vie, symbolisé par son sang qui coule en lui-même. Et il est composé également de la neshama, que beaucoup traduisent par son âme, dont la nature est éternelle et qui se prolonge après la mort. Le péché qui affecte l'homme depuis la chute d'Adam et Ève a entraîné une rupture, et le nefesh, comme le corps d'ailleurs, s'en trouve affecté par la mort qui va en définitive les atteindre. Pour les rabbanim, l'offrande brûlée sur l'autel, le misbéach c'est l'autel, est une manière pour le pécheur de témoigner devant le Seigneur de sa culpabilité. L'animal se substitue à lui pour expier la faute qu'il porte devant le Seigneur. Le sang de l'animal est versé autour de l'autel comme témoignage et le corps de l'animal est brûlé pour retourner à la poussière de la cendre, la condition en fait initiale de tout homme tiré de la terre. Le feu est clairement celui du jugement qui atteint le coupable et la fumée du sacrifice qui s'élève vers Dieu est symboliquement l'image du rapprochement qui s'opère entre l'homme et son créateur, l'élévation de son nefesh vers le Seigneur. Le sang est le nefesh qui coule le long des parois de l'autel et qui, en étant visible, témoigne de la vie donnée en rançon pour le pécheur. C'est donc d'une grande importance que le sacrifice à l'Éternel se fasse devant la tente de la rencontre, en la présence de Dieu lui-même et nulle part ailleurs. Le sacrificateur est pour sa part le médiateur, l'intermédiaire qui sert de lien entre l'homme et son Dieu. La responsabilité du sacrificateur est donc capitale et il était essentiel de bien saisir le sens de chaque action menée par le sacrificateur en présence de Dieu. Notre parasha Tsav commence toutefois par une injonction plutôt étonnante. En effet, Aaron et ses fils en sont au tout début de leur initiation, hein. N'oubliez pas qu'on est quand même encore au tout début, et Moshe se charge de les enseigner très précisément sur chaque point. Et il y en a des choses. Les termes employés pour les instruire sont en général les termes comme « devar » ou « emor » qui veulent dire « parle » ou « dit à Aaron et à ses fils ». En d'autres termes, ces mots désignent un enseignement de la part de Moshe à Aaron et ses fils. Mais ici, au verset 2, nous n'avons pas ces mots-là. Nous avons un ordre, « tsav », que l'on peut traduire littéralement par « ordonne ». C'est plus quelque chose qui résonne comme un enseignement, mais comme une injonction. Pourquoi ordonner quelque chose ici, en cette circonstance? En l'occurrence, il s'agit ici de règles relatives à l'Holocauste offert chaque jour, notamment ce qu'on appelle par ailleurs le sacrifice perpétuel. Cette offrande avait la particularité de n'être reliée en définitive à aucun Israélite en particulier, ni même à un événement particulier. Il était offert chaque jour, tous les jours, même le Shabbat. Pour les rabbins, s'agissant de cette offrande quotidienne, il relève que celle-ci est entièrement à la charge financière des sacrificateurs. Ils estiment que leur motivation à s'investir dans cette offrande pouvait peut-être être amoindrie par les frais qu'elle occasionnait. Bon, ça, c'est les commentaires des rabbins. Je vous laisse penser ce que vous voulez. Ceci étant, les interprètes ne sont pas unanimes sur cette particularité. L'injonction peut tout autant être comprise comme une nécessité absolue ou une priorité à ne pas négliger du fait que son exécution quotidienne pouvait conduire à une routine propre à affaiblir son statut. Le fait même qu'elle soit quotidienne, et on en fait, nous, des choses tous les jours, de manière quotidienne, commencer à se brosser les dents ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, à force de les faire tous les jours, on peut en oublier leur importance et finalement en amoindrir la qualité d'exécution. On peut se brosser les dents, au début c'est 2 minutes, 3 minutes, après c'est 30 secondes. Donc c'est un exemple comme un autre. Hein. Mais c'est un peu ça qui peut être derrière cette injonction. Mais rien n'est moins sûr, en tout cas par rapport à la raison qui motive cet ordre donné à Aaron et ses fils. Au verset 3, donc chapitre 7, je crois, hein, le 6. « Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. » Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Tout est bien régencé. C'est précis, net, mais il faut le faire tous les jours. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Et je vois déjà la question qui se pose, mais comment on fait quand on doit voyager? Parce que là, le tabernacle, il est mobile. Il faut transporter ça avec le feu qui brûle encore. C'est un peu difficile, hein? Mais bon. Les consignes à propos des cendres soulignent l'importance symbolique des cendres, qui sont ici éminemment pures. Alors que si vous faites un feu dans votre cheminée, en général, les cendres... Une fois que c'est fini, qu'elles sont froides, on les met dans un coin du jardin, je ne sais pas. Si le sang visible témoigne en faveur du pécheur qui fait une teshuva, qui fait un retour à Dieu, le sang visible sur les parois de l'autel. La cendre ici témoigne de la réalité du péché expié. La cendre accrédite la mort effective de celui qui paye pour le péché. Or, celui qui en a terminé avec le péché, par la mort, est de fait pur devant le Seigneur. On est dans une symbolique très forte ici, de la cendre. La tradition relève le fait que le feu sur l'autel ne devait à aucun moment s'éteindre. Il existait à cet effet des dispositions spéciales. Trois différents tas de bois disposés en fonction des besoins et des sacrifices offerts. Je ne rentre pas ici dans les détails. Ce sont des dispositions pratiques qui, en fonction de la nature des holocaustes, eh bien, on n'utilisait pas le bois de la même manière. On avait un tas spécifique pour entretenir le feu, juste pour entretenir le feu. D'après la Guémara, qui est un commentaire rabbinique du IIe siècle, lors de l'institution de cette ordonnance, le feu a pu être maintenu pendant une centaine d'années de manière ininterrompue. Un commentaire, centaine d'années, même si ça avait duré 15 jours, c'était déjà beaucoup. Alors, une centaine d'années, imaginez. Cependant, ce qui est à mon sens le plus important de souligner, ce n'est pas la permanence du feu en tant que tel, même en voyage dans le désert. C'est plutôt le lien qui s'établit avec le sacrifice quotidien qui est composé d'un agneau le matin et d'un second dans l'après-midi. En fait, quand on parle d'offrande quotidienne, c'est pas un agneau, mais deux. Et à deux moments de la journée différents, le matin et l'après-midi à 15 heures. L'interruption du feu sur l'autel entraînait forcément l'interruption de l'offrande quotidienne. Les deux sont étroitement, en fin de compte, liés. ce qui est sans doute plus problématique, comme on va le voir. Tandis que les sacrifices sont désignés par leur fonction ou leur rôle, il semble que le sacrifice perpétuel n'est mis en relation avec aucun individu, ni avec aucune raison particulière ou spécifique. On offre l'offrande, ce n'est pas lié au péché d'un tel ou un tel, ni même du peuple d'ailleurs, c'est offert, point. Que comprendre de cette singularité par rapport à ce sacrifice perpétuel ? Pour les rabbanim, cette offrande perpétuelle quotidienne n'a rien d'anecdotique. Elle est fondamentale, elle est même au cœur de tout le processus de rédemption. Les Israélites qui avaient commis une faute ou une transgression quelconque devaient s'approcher avec leur offrande. Ils apposaient leurs mains sur la tête de l'animal et tout en confessant leur faute, l'animal était égorgé pour faire l'expiation. Le sacrificateur accomplissait pour eux l'œuvre de réparation en faisant l'acte de propitiation pour eux. On pense souvent, en étudiant la loi et l'ensemble de ces rituels, que finalement, seuls les péchés jugeables par la halakha, c'est-à-dire par la loi, pouvaient effectivement faire l'objet d'une expiation par le sacrifice. Mais qu'en est-il de celui qui a eu seulement la pensée de mal agir ? Il ne peut pas être jugé par la halakha, personne ne le sait. Les sages du judaïsme indiquent dans la Guémara, je vous fais grâce de ces références, que l'holocauste quotidien est là pour accomplir l'expiation de celui qui a commis une faute en pensée, dans sa conscience. C'est ainsi qu'il ne confesse pas lui-même une faute particulière. Le sacrifice est opéré quotidiennement pour les fautes en pensée de tout le peuple. Or, il ne fait aucun doute à mon esprit que ces fautes-là sont de loin les plus nombreuses. Je pense toujours aussi à Job, vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Job, où Job offrait un sacrifice pour le cas où ses enfants auraient commis une faute sans que ça se sache, ou en pensée. C'est intéressant, quand même. Il s'est dit, ouf, on ne sait jamais, on va offrir quand même aussi un sacrifice pour ce cas particulier. Alors les rabbins se sont interrogés sur le degré de gravité, entre guillemets, des fautes en pensée par rapport aux fautes pleinement accomplies et constatées. Ah, il y a des discussions qui dépassent un peu l'imagination, mais la conclusion de la plupart des commentateurs, le Rambam en tête d'ailleurs, est de souligner la gravité ultime des fautes commises en pensée, au niveau de la conscience. Quoique la plupart des jugements du Beit Din, c'est-à-dire de la Halakha, ne concernaient que les fautes visibles, celles qu'on pouvait constater, il est reconnu que les fautes touchant à la conscience n'étaient expiées que par l'holocauste quotidien. L'Ola, le sacrifice présenté par élévation, est considéré par les rabbanim comme le sacrifice le plus estimé de tous. Le sacrifice le plus estimé de tous. Le modèle par excellence de toutes les corbanotes. C'est comme ça que j'ai intitulé d'ailleurs cette paracha, le sacrifice le plus estimé de tous. Poursuivons, verset 7. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande, et ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Alors, relatif à la loi sur l'offrande des Israélites, il est donné des précisions importantes. L'offrande végétale était partiellement consumée sur l'autel. Le reste était mangé par les sacrificateurs. Il faut bien qu'ils mangent, ces gens-là. On peut voir dans cette disposition le fait que les sacrificateurs devaient porter symboliquement la charge du péché des Israélites. Donc ce n'est pas seulement une disposition pratique pour que les Israélites, pour que les sacrificateurs puissent avoir une subsistance, mais c'est aussi une charge symbolique pour eux de porter le péché d'Israël. N'oublions pas que toutes ces dispositions ne concernent que les sacrificateurs et non les Israélites. C'est pourquoi il n'en est pas fait mention dans la première partie des présentations des corbanotes dans la paracha Vayikra qui précède celle de Tsav. Poursuivons, verset 12. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction. Un dixième d'épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. » Donc c'est quelque chose qui accompagne en fait l'Holocauste perpétuel. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu l'apporteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. Dans ces quelques versets sont spécifiés les éléments relatifs à l'offrande des sacrificateurs eux-mêmes, le jour de leur consécration, mais aussi à l'offrande quotidienne et perpétuelle accompagnant le sacrifice du matin et du soir dont on vient de parler. On notera que cette offrande offerte par les sacrificateurs n'est pas mangée par les sacrificateurs. Donc ce que les sacrificateurs offrent, eux, ils ne la mangeront pas. Elle est brûlée entièrement sur l'autel avec le sacrifice quotidien perpétuel. Les sacrificateurs ont certes la charge de supporter le péché du peuple, et en ce sens, ils mangent une partie du sacrifice offert par les Israélites, mais quand le sacrifice est pour eux-mêmes, personne ne mange pour eux le sacrifice pour leur péché. Celui-ci est entièrement consumé sur l'autel en même temps que le sacrifice perpétuel. Leur conscience n'est alors purifié que par le sacrifice perpétuel qui fait office d'expiation pour eux. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. » C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle elle aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Alors on en vient au sacrifice d'expiation, le hatat. Hatat, c'est le nom du sacrifice d'expiation, qui se distingue du premier type de sacrifice offert quotidiennement ou lors de l'investiture du sacrificateur. Il est intéressant de noter que les deux offrandes sont cependant égorgées dans un même lieu. Les rabbins expliquent que ces sacrifices, se faisant à la vue de tous, il n'était pas souhaitable que la faute confessée ajoute encore la honte à celui qui avait commis une faute en pensée ou par inadvertance. L'importance de la première étant davantage considérée que la seconde. Le sang apporté dans le sanctuaire est certainement celui de l'offrande quotidienne et même celui de l'offrande de Kippour, une fois par an, au-delà du voile. Finalement, les sacrifices qui viennent à purifier les consciences sont d'une importance plus capitale que les autres qui préfigurent la manière dont va s'opérer la rédemption par la Nouvelle Alliance. Mais poursuivons un peu plus loin, donc au chapitre 7 cette fois-ci. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'Holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. La règle ici pour le sacrifice de culpabilité est semblable à celle pour le sacrifice d'expiation. Il s'agit du sacrifice suite à un délit et il entraîne la culpabilité de l'auteur. On notera l'importance des graisses qui ne sont pas consommées, mais brûlées sur l'autel comme un parfum agréable au Seigneur. Mais tandis que dans les chapitres précédents, pour l'Israélite, les graisses représentaient en quelque sorte une prière qu'il faisait monter à Dieu, la graisse étant en quelque sorte assimilable à l'huile ou les parfums aromatiques d'ailleurs, ici il est mis l'accent sur ce que le sacrificateur peut manger ou non en relation avec sa fonction. Il est toujours dans des rôles différents. Sont ensuite mentionnées un certain nombre de règles relatives au sacrifice de reconnaissance qui constituent l'essentiel des offrandes des Israélites et qui représentent la rémunération autant que les moyens de subsistance des sacrificateurs. Alors je me permets de faire un petit saut plus loin, au verset 26 du chapitre 7, toujours, qui précise un certain nombre de considérations importantes. Verset 26, chapitre 7, « Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. » Alors on a bien compris l'importance du sang dans les offrandes pour faire l'expiation. Celui-ci représente le nefesh, la vie de la victime en substitution de celle de l'offrand. La valeur symbolique du sang revêt donc une importance capitale. L'interdiction de consommer le sang trouve donc tout son sens, même aujourd'hui. Banaliser son usage ou en détourner le sens atrophie, à mon sens, la conscience de l'homme qui s'approche de Dieu. Or, c'est chaque jour, à l'image du sacrifice perpétuel, que la conscience humaine est souillée et a besoin d'être purifiée par le sang de l'offrande perpétuelle. En conséquence, l'homme qui consomme le sang de la victime annule en quelque sorte le sacrifice en empêchant l'élévation vers Dieu de la victime expiatoire et en s'appropriant ce qui aurait dû être offert à Dieu. Il n'élève pas son offrande à Dieu, corps et âme, il reste attaché à la terre et à la malédiction du péché. Dame, le sang, et l'adama, vous savez, les similitudes d'assonance dans ces deux mots, l'adama qui est la poussière attachée à l'humanité de l'homme, reste ancrée sur la terre et ne s'élève pas vers le Créateur. Pour les rabbanim, la consommation de sang est en quelque sorte un anti-sacrifice. C'est eux qui le disent. Les apôtres souligneront l'importance du sang aux disciples en énonçant clairement les ordonnances à la suite du Concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, j'ai déjà abordé cela, peut-être pas dans un GBBI, mais en conférence, sur ces prescriptions, ces quatre ordonnances faites par les apôtres aux disciples, juifs et non-juifs, à la suite du Concile de Jérusalem, de Acte 15. Et il y a notamment l'interdiction de consommer du sang. Mais pas seulement. Concrètement, la consommation de sang reste encore un sujet difficile pour les croyants aujourd'hui. À chaque fois que j'ai abordé cette question, il n'y a pas eu l'unanimité dans la salle, loin de là. Donc c'est un sujet qui on va dire qui fâche, mais enfin qui divise en tout cas, qui n'est pas unanime. Tout le monde n'est pas unanime pour dire qu'il ne faut pas consommer de sang. Je veux terminer notre méditation sur quelques versets plutôt énigmatiques du chapitre 8, toujours notre parashat Sav. Ce chapitre est presque entièrement consacré à l'investiture ou la consécration d'Aaron et de ses fils dans leur fonction. C'est un moment solennel où Moshe est particulièrement actif pour sanctifier et préparer son frère et ses neveux à leur nouvelle fonction. Alors le texte est un peu long, mais il en vaut la peine, à mon avis, pour réaliser l'importance de l'événement. Donc on est au chapitre 8, et on lira à partir du verset 5. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava dans de l'eau, ou avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'ourim et le toumim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire, et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ah, il peut paraître un peu surprenant que Moshe se charge lui-même, la première fois que j'ai lu ça, je dis, un peu drôle quand même, que Moshe se charge lui-même de laver Aaron et ses fils. Et pas seulement cela, mais aussi de les habiller, puis de les sanctifier avec de l'huile. On peut avoir même l'impression que Aaron et ses fils font en quelque sorte corps avec le sanctuaire, puisqu'on sanctifie Aaron et ses fils en même temps que tout le reste du sanctuaire. La sanctification se fait avant l'expiation des fautes. On fait l'aspersion d'huile sur Aaron et ses fils, sur le sanctuaire, avant de faire l'expiation. C'est intéressant. Car ce n'est pas par leur fonction de sacrificateur que le taureau est offert, et non comme un simple... La sanctification se fait avant l'expiation, car c'est de par leur fonction de sacrificateur que le taureau est offert, et non comme simple israélite parmi leurs frères. Verset 14. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alors les animaux sont offerts selon les ordonnances spécifiques données par Dieu à Moshe. Alors je ne reviens pas sur la nature des sacrifices et la manière dont l'expiation est faite pour Aaron et ses fils. S'agissant du taureau expiatoire, qui est offert en premier, sa graisse est brûlée sur l'autel comme un parfum de bonne odeur devant Dieu, tandis que la chair et le reste du sacrifice est entièrement consumé par le feu hors du camp. Il n'y a guère que pour la vache rousse, dont j'ai déjà parlé une autre fois, je ne vais pas y revenir maintenant, que l'on agissait de la même manière. Or, celle-ci a une haute valeur symbolique en relation avec le Mashiach. Si vous voulez plus de choses, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie l'article relatif à la vache rousse. Le bélier de l'Holocauste est cependant entièrement brûlé sur l'autel, moyennant quand même quelques dispositions pratiques supplémentaires. On peut penser qu'il s'agit ici d'une imitation du sacrifice perpétuel. Laver certaines parties du corps découpé de l'animal tendait peut-être à le distinguer de l'Holocauste du précédent. L'expiation des sacrificateurs devant couvrir aussi bien leurs actions conscientes que leurs pensées les plus secrètes. Moshé est l'archétype du Messie. Il est celui qui accomplit pour la classe des sacrificateurs l'expiation de leurs fautes. Le sang purifie l'autel qui est alors consacré. Moïse, avec son doigt, dépose du sang sur les cornes, les quatre coins de l'autel, puis verse le sang au pied de l'autel. Pourquoi agir de manière aussi précise au sujet de l'autel, à l'égard des quatre cornes? Alors, c'est pas facile de le comprendre, j'en conviens, d'autant que les versets suivants sont encore plus énigmatiques au sujet du sang et de l'huile appliquée sur les sacrificateurs. Verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, pris de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Alors là, on nage en plein mystère. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil, de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les déposa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse. Ouais, quand même quelque chose. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et il en fit l'aspersion sur Aaron et ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Alors, quel énigmatique rituel! On comprend bien le sens de la substitution et du transfert sur le bélier de la consécration effective d'Aaron et de ses fils. L'onction par l'huile et la purification par le sang est somme toute assez facile à percevoir. Mais que penser de l'application du sang sur le lobe de l'oreille droite, le pouce droit, et l'orteil du pied droit de chacun de Aaron et de ses fils. Les autres occurrences de ce genre de pratique, il n'y en a pas tant que ça, mais on les trouve d'une part dans Exode 29, verset 20, mais en fait, il s'agit d'une répétition de ce qui se passe ici, donc en fait, on n'apprend rien de neuf. Par contre, on retrouve cette évocation rituelle dans Lévitique, chapitre 14, dans la paracha Metzora. Dans ce passage de Lévitique 14, il est question de la purification du lépreux. Et il s'y ajoute même, en plus, l'apposition d'huile sur le sang et sur les trois appendices déjà mentionnés. Alors, à ce propos, il nous faut comprendre l'importance symbolique de la lèpre comme image du péché que seul Dieu enlève. Souvenez-vous, dans Exode chapitre 4, quand Moïse reçoit les signes de la part de l'Éternel qui vont le confirmer comme conducteur des Israélites pour sortir d'Égypte, il y a le signe de la lèpre. Il met sa main dans son sein, il la retire, il a la lèpre, oh, terrible, remet dans son sein, elle est purifiée. C'est Dieu seul qui purifie de cette lèpre symbolique. Mais ici, donc, nous avons tout ce processus en Lévitique 14 de purification du lépreux, en tout cas, plus exactement, une fois qu'on a constaté qu'il n'avait plus la lèpre. Une démarche de Dieu pour restaurer une relation rompue, celle du lépreux avec lui, avec Dieu, mais aussi avec le reste des hommes, d'ailleurs. Alors, nous abordons ce sujet avec plus de précision une autre fois dans l'étude de la Parasha Metsora. Il y en a qui sont frustrés, ça n'a pas vu aujourd'hui. On le verra une autre fois, mais pour l'heure, on peut quand même sans doute souligner que le lobe de l'oreille nous ramène au péché de celui qui refuse d'écouter la parole. Que le pouce désigne l'action de l'homme qui lève la main contre son prochain et que l'orteil évoque les pieds de celui qui court pour faire le mal. Le sang versé symboliquement sur ces trois appendices, puis plus tard relié aux lois relatives à la purification de la lèpre, parle forcément à la conscience d'Aaron et de ses fils. Ce sang à ces endroits marque les esprits et de la profondeur de l'action de Dieu dans leur vie présente et future. J'imagine bien qu'ils n'ont certainement pas oublié ce qui leur est arrivé ce jour-là. Alors il nous faut quand même conclure, et nous sommes loin d'avoir fait un tour exhaustif de ce passage, qui si nous l'avions lu à la maison comme ça tranquillement, nous aurions dit, oui, très bien, et on passe à la suite. Mais non, il y a beaucoup à apprendre de ce passage. Loin de ne parler que de sacrifices sanglants et de procédures plus ou moins complexes, ce passage évoque avec plus de subtilité qu'il n'en paraît de l'avènement du Messie, de sa mort et de l'étendue de son action jusque dans notre conscience. Le premier des sacrifices cités dans la Parasha Vayikra est ce qu'on appelle une oblation, c'est-à-dire une offrande volontaire faite par élévation. Elle n'est pas juste posée sur le bois afin d'être brûlée, mais elle est présentée en l'élevant devant Dieu. C'est l'offrande qu'on appelle aussi l'Ola, une offrande quotidienne, qui est élevée devant Dieu avant d'être brûlée sur le bois. Ola signifie d'ailleurs élevé, monté. Plus encore que le sacrifice lui-même, c'est le regard et les pensées du sacrificateur qui suivent l'offrande élevée qui suggère une attitude du cœur tournée entièrement vers Dieu. Suivant notre analogie messianique, il fallait en effet que le Messie souffrant subisse la mort hors du camp, comme le taureau, hors de la ville, et non au milieu du peuple, que son corps soit élevé et présenté aussi à Dieu sur le bois de la croix, le lieu de sa souffrance et de sa mort. J'aime à penser que les rabbanim considèrent ce sacrifice quotidien comme le meilleur des sacrifices, le sacrifice le plus estimé de tous, comme disait le Rambam. Puissent-ils découvrir le sens prophétique de ce sacrifice qui alors deviendra réellement le plus précieux de tous les sacrifices. Amen.